Justin et Rachel sont mariés depuis 10 ans. Ils ont 2 enfants de 3 et 6 ans. Aux yeux de leur entourage, ils forment un couple heureux et sans problème.
C'est fini, oui.
C'est vrai que ni eux ni leurs enfants ne sont atteints d'une maladie grave. Ils n'ont pas non plus de problèmes financiers majeurs. Cependant, progressivement, leur relation s'est érodée. La colère et la peur sont aujourd'hui les deux émotions les plus présentes dans leur quotidien, et tout le monde en souffre. Justin est ingénieur et, comme la grande majorité de cette honorable confrérie, celui-ci est très cartésien et ne possède pas une once d'originalité. Quel ennui! La façon dont il témoigne de son amour à sa femme consiste à ramener un bon salaire à la maison tous les jours. Plutôt tous les mois, soyons raisonnables. Rachel a grandi dans un foyer brisé et elle apprécie particulièrement les moments d'intimité avec Justin. En fait, elle a toujours attendu plus de sa part qu'il ne semblait prêt à donner. Avant l'arrivée de leurs deux garçons, elle avait Justin pour elle toute seule. Mais depuis un certain temps, déjà, le stress et leur emploi du temps respectif ont commencé à faire des ravages chez Rachel. Justin est fort investi dans ses activités sportives, les activités sportives de son aîné, et continue à fréquenter la salle de sport 3 fois par semaine, comme il avait l'habitude de le faire avant leur mariage. Il estime être un bon père et un bon mari. Rachel, quant à elle, voit les choses différemment et estime que son mari s'éloigne d'elle. L'année dernière, Rachel a demandé à son mari de lui accorder plus de temps, ce qui n'a fait qu'éloigner Justin encore davantage. Il a déclaré à sa femme qu'il en avait assez d'être étouffé, ce qui l'a encore plus éloigné d'elle. Et ce qui a pour effet de rendre Rachel encore plus désespérée et démunie, et ce qui a donné à Justin l'envie de passer encore plus de temps à l'extérieur de la maison. Cela a duré des mois jusqu'à ce que Rachel se décide à en parler à son pasteur en posant la question « Quel est notre problème ? C'est comme si nous allions dans des directions opposées. Nous n'arrivons plus à être connectés l'un à l'autre. » Comme pour de nombreux couples, les opposés se sont attirés, du moins au départ. Avec le temps, les contraintes de la vie quotidienne et les chocs liés à des traumatismes, les traits de caractère qui les avaient attirés l'un vers l'autre au début de leur histoire les éloignent désormais. Ils méprisent à présent chez l'autre ce qu'ils appréciaient autrefois. Ils semblent venir de deux planètes différentes. Ils prennent conscience, nos deux amis, qu'ils perçoivent le monde de façon diamétralement opposée. En fait, en clair, même si c'est difficile à vivre, leur situation est simple. Ils ne retrouveront probablement plus jamais la paix et l'amour tant qu'ils n'auront pas compris pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, ressentent ce qu'ils ressentent et agissent comme ils le font. Chacun d'entre nous, nous avons un style relationnel qui nous est propre. Que nous en soyons conscients ou pas, je ne dis pas que c'est conscient, mais nous avons un style relationnel. Donc ce qu'il faut déjà comprendre à ce stade, c'est que votre style relationnel et vos croyances de base dans le domaine des relations ne se manifestent généralement clairement que lorsque vous êtes dans une situation de stress, de tension ou de pression. En dehors de ces moments-là, personne ne va se douter, même pas vous-même, de la façon dont vous fonctionnez. Il faudra attendre une déception, peu importe la forme que celle-ci va prendre. En fait, pour faire simple, nous développons 4 styles relationnels distincts en fonction de la façon dont nous répondons ou avons répondu par le passé à 2 questions primordiales, cruciales, vitales, fondamentales. Il y a d'autres adjectifs, hein, mais je m'arrête ici. Suis-je digne d'être aimé ? Les autres sont-ils capables de m'aimer ? Notre façon de nous comporter dans nos relations avec notre entourage et avec Dieu, c'est un culte. Ça n'est pas une session donnée par un docteur en psychologie, hein, vous aurez bien compris. Donc, votre façon d'interagir avec l'autre va impacter aussi votre relation avec Dieu, qui est une personne, ça ne vous aura pas échappé. Donc notre façon de nous comporter dans nos relations avec notre entourage et avec Dieu est déterminée dans une large mesure par la nature de notre relation avec nos parents lorsque nous étions très jeunes. Alors, petite parenthèse déjà à ce stade, ça ne veut pas dire pour autant, rassurez-vous, parce qu'il faut être rassuré, je pense, que ce qui est arrivé lorsque nous étions enfants soit totalement déterminant, ni que vous nous soyons enfermés dans certains rôles et manières de voir pour le reste de notre vie. Ce serait un hyperdéterminisme abominable. C'est pas ça du tout. Et ça ne veut pas dire non plus que nos comportements mauvais ou coupables soient excusables et doivent être imputés à nos parents. Moi, j'en peux rien, je fonctionne comme ma mère ou mon père. Donc, ce n'est pas de ma faute. Devant Dieu, ce genre d'attitude ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui n'intègre pas sa propre responsabilité de vécu par rapport à ce qui lui arrive, Dieu ne peut strictement rien faire pour lui. Pour aller voir le médecin et que le médecin soit opérant, il faut prioritairement se savoir malade. Ça signifie en revanche que nous avons besoin de clairement comprendre les obstacles, voire les murs ou les montagnes que nous aurons peut-être à franchir sur la route de la maturité émotionnelle et spirituelle, parce que les deux vont ensemble. Prendre deux versets dans un psaume du roi David. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une belle demande. David avait bien compris qu'il n'était pas toujours capable de discerner par lui-même, objectivement, ce qui le faisait agir. Et c'est pour cette raison qu'il demande à Dieu de le rendre conscient de ce qui se passe en lui et du pourquoi ça se passe. Alors c'est une prière qui est extraordinairement dangereuse parce que c'est le type de prière auquel Dieu va toujours répondre, si vous êtes sincère. Vous voulez qu'il vous montre et qu'il vous change, il va le faire. Hein. Je rappelle que dans la pensée juive, le cœur, ce n'est pas l'organe cardiaque, hein, c'est le siège des émotions, de l'affect, de la partie instinctive de l'être humain, ainsi que de son intellect, en fait tout le siège de l'être humain. Alors nous avons la chance, 3000 ans plus tard, parce que ce poème date de 3000 ans, à la louche, que Dieu ait permis le développement des sciences du comportement. Ce qui n'enlève en rien encore aujourd'hui à la pertinence de la demande du roi d'Israël. Si on examine d'ailleurs la vie de David, sur un plan relationnel et émotionnel, on est d'ailleurs frappé par une série de choses, de comportements, de dysfonctionnements, que je n'ai malheureusement pas le temps d'approfondir ici, mais qui témoignent de ce que nous avons déjà dit et allons encore dire. David est un homme qui aime Dieu. Son plus grand problème, c'est qu'il aime, en fait. Quand il aime, c'est jamais à moitié. Il va aimer Dieu aussi fort qu'il aime une femme qui n'est pas la sienne. Et tout ça aura un impact terrible sur ses enfants, sur sa famille et même sur le royaume, puisque le roi incarne la justice de Dieu et la relation profonde avec le Dieu d'Israël. Alors deux dimensions touchant aux convictions relationnelles que nous avons à l'âge adulte sont issues donc de deux questions fondamentales. Donc je vais rendre d'une autre manière les deux premières questions que j'ai évoquées tout à l'heure. La première dimension, est-ce que je suis digne d'être aimé ? C'est la perception de soi que l'on a de soi-même. Puis ensuite, la perception des autres, les convictions liées à la perception que nous avons des autres. Autrement dit, sont-ils dignes de confiance, fiables, etc. L'entièreté de votre vie relationnelle va se baser là-dessus. Et la façon dont vous allez répondre à ces deux questions. Alors, vous n'avez pas besoin de le dire, hein. Votre manière de fonctionner va indiquer comment vous répondez à ces deux questions. Alors, les chercheurs en sciences du développement ont utilisé les réponses à ces questions afin de développer un système donc en quatre catégories permettant de découvrir et de comprendre le style d'attachement qui nous est propre. Encore une fois, rappelez-vous, c'est de là que ça part. La semaine passée, je vous ai expliqué que le terme « piété » dans la Bible devait être traduit et est traduit dans certaines traductions plus courantes par l'expression « attachement à Dieu ». Je pense que c'est juste. que piété, tout le monde voit des moines dans un monastère. Non, la piété, c'est où en est ton type d'attachement relationnel avec Dieu. Quand tu es très attaché émotionnellement, intellectuellement, spirituellement à Dieu, tu es dans une bonne forme d'attachement à sa personne. Et ça aura un impact direct avec ton style d'attachement avec les autres, forcément. On ne vit pas sur une île. Donc ce style est le reflet en fait de modèles intérieurs de fonctionnement que nous avons élaborés en ce qui concerne la façon dont nous voyons et interprétons nos relations les plus étroites. Voici donc les quatre styles relationnels primaires. Il y a le style sécurisé, je vais y revenir, hein. Le style sécurisé, le style anxieux, le style distant et le style craintif. Alors, on parle d'attachement sécurisé pour les personnes qui ont une opinion positive d'elles-mêmes et des autres. Si vous êtes là, tout va bien. Mais j'ai un scoop. À part Jésus, personne n'est là. Voilà, allez, vous êtes content d'être venu. Vraiment, hein. Jésus était là. On peut peut-être comprendre pourquoi. Alors, chose importante, il ne s'agit donc pas ici d'orgueil, hein. Ah, moi, je suis hyper sécurisé. Non, non. Si on fait référence à une catégorie biblique, non, non, il ne s'agit pas d'orgueil ici. Hein. Quelqu'un qui se voit positivement et voit les autres positivement, ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question d'équilibre émotionnel et relationnel. Ces personnes donc croient être dignes d'être aimées et pensent que les autres sont capables et accessibles lorsqu'elles en ont besoin. Elles sont à l'aise aussi bien dans la proximité que dans l'indépendance. Il y a un équilibre entre les retraits et le temps passé avec les autres. Quand ça dysfonctionne, ce qui est notre cas pour tous, hein, parfois on disparaît dans notre cave pendant des semaines, voire des mois, des jours, peu importe, et d'un autre moment, on passe son temps avec les autres de manière dysfonctionnelle, etc. Deuxième type d'attachement. Tu parles d'attachement anxieux pour les personnes qui ont une vision négative d'elles-mêmes et une opinion exagérément positive des autres. Les autres sont bien, moi je suis nul, c'est si je devais résumer. Donc elles sont, de là le type d'attachement, elles sont généralement anxieuses dans les relations et ont une peur chronique, malsaine de l'abandon, car elles croient qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées. Et que forcément, quand vous ne pensez pas que vous êtes aimable, vous avez peur d'une chose, forcément, c'est qu'à un moment, les gens vont découvrir autour de vous que vous n'êtes pas aimable et vont se tirer en courant. On parle d'attachement distant pour les personnes qui sont le contraire, si je puis dire, des personnes anxieuses. Elles ont une vision trop positive d'elles-mêmes et une vision trop négative des autres. Elles ne sont pas à l'aise avec la proximité. On parle ici de proximité relationnelle intime, hein, donc être proche de quelqu'un. Elles ne sont pas à l'aise avec la proximité et ont tendance à devenir trop autonomes, car elles ne croient pas que d'autres seront là pour elle. Les autres, ça ne sert à rien. Personne n'a jamais été là pour moi. Et enfin, on parle d'attachement craintif pour les personnes qui ont une vision négative aussi bien d'elles-mêmes que des autres. C'est la totale. Elles éprouvent des difficultés lorsqu'il s'agit d'intimité et de proximité. Et souvent, elles évitent tout simplement les relations. Alors, ces quatre styles relationnels permettent en fait tout simplement de mieux comprendre les différents niveaux d'anxiété et d'évitement que nous pouvons connaître dans les liens d'attachement. Ben, si on prend par exemple les adultes sécurisés, la première catégorie, ils ne connaissent que de faibles niveaux d'évitement et d'anxiété, puisqu'ils ont une vision positive des autres, ils n'ont pas de problème en relation parce qu'ils ne sont pas anxieux par rapport à ça. On ne va pas leur faire de mal, quoi. Voilà, les autres, c'est bien, si je veux le dire comme ça. Et ils ne vont pas éviter non plus les autres, puisqu'ils ne se sentent pas mis en danger par les autres. Ils sont donc à l'aise avec la proximité et l'intimité, éprouvent des sentiments d'estime de soi positifs et ont des moyens sains de faire face au stress, notamment en recherchant l'aide des autres. Parce que quand ça fonctionne plus ou moins normalement, quand on a des questions, quand on ne se sent pas bien, on doit rechercher l'aide des autres. Si on n'a pas de réponse par nous-mêmes, sur nous-mêmes, qui peut avoir potentiellement des réponses pour nous aider à avancer, à sortir de cet état? Ce sont les autres. Mais si on se méfie des autres, on va rester seul dans son coin avec ses problèmes et on ne réglera jamais rien. Les adultes anxieux ont, eux, des niveaux élevés d'anxiété, mais des niveaux d'évitement moindres. Ils manquent d'assurance dans la sécurité d'une relation. puisqu'ils ont un sentiment d'estime de soi très faible. Ils craignent d'être rejetés et ont une envie de proximité, puisque les autres sont mieux qu'eux. Il faut forcément que je passe beaucoup de temps avec les autres. Ils sont inquiets de façon obsessionnelle, en demande permanente et collant dans leurs relations plus étroites. On a jamais connu quelqu'un qui colle en permanence, qui est en demande permanente. Mais il est probablement d'un style relationnel anxieux. Mais ça nous permet aussi, puisque nous sommes tous esquintés et nous sommes tous déficitaires, de percevoir les choses un peu dans... Pas simplement être « Oh, bah, qu'est-ce qui me colle ?» Mais dites « Bah oui, mais s'il colle, il y a peut-être une raison à ça. » Et d'être dans de l'accueil, même des gens collants, par exemple. Les adultes distants enregistrent des niveaux d'évitement élevés et des niveaux d'anxiété très bas. Pourquoi ? Ben parce qu'ils se surestiment et ne sont pas à l'aise dans l'intimité. Et enfin, je retermine par les adultes craintifs. Ils révèlent quant à eux des niveaux élevés d'évitement et d'anxiété, recherchent l'acceptation et l'estime des autres, mais craignent que ceux-ci ne soient pas capables de répondre à leurs besoins et sont donc mal à l'aise avec la proximité et la construction d'une relation intime. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire que tout ça est fort psychologisant et que ça n'a pas vraiment de base biblique. Alors, première information, même s'il y a de la psychologie dans la Bible, ce n'est pas un bouquin de psycho. Et remercions le Seigneur que toutes les dynamiques et tous les domaines de la culture humaine, de la connaissance humaine, ne soient pas repris dans la Bible, parce qu'on aurait des Bibles qui feraient à la louche 685 kilos. Comprenez. Mais il y a des indices. On en prend un. Lévitique 19-18. J'ai déjà fait allusion à celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout est là. Vous êtes capable de vous aimer vous-même, vous êtes capable d'aimer les autres comme vous-même. Si on se pose honnêtement la question devant Dieu, on connaît tous ce verset. D'après Jésus, quand tu lui posais la question, dans le Nouveau Testament, quel est le plus grand des commandements ? Il disait, tu aimeras ton Dieu, on est de nouveau là. Hein. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les deux sont liés. Mais Jésus dit, c'est le plus grand et le plus important des commandements. Pourquoi ? Parce que si vous vivez ça, vous accomplissez la loi, Paul. L'amour est l'accomplissement de la loi, mais pas n'importe quel amour, un amour équilibré, structuré, aussi bien de soi-même en Dieu, parce que je suis aimé de Dieu, et un amour équilibré vis-à-vis des autres, parce que comme je suis habité par l'amour de Dieu, j'aime l'autre. Alors, quand on lit, je sais, vous me direz après, ou voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais quand on lit, moi, à titre personnel, quand j'ai lu, et Dieu sait si j'ai lu ce verset, instinctivement, on pense souvent que l'emphase de cette phrase, et ça déjà, ça nous écrase un petit peu, que l'emphase de cette phrase tombe sur l'obligation d'aimer son prochain. On dit, je vais devoir aimer mon prochain. Et là, directement, il y a des gens qui apparaissent dans votre tête. Des têtes de gens, en gros plan. À commencer par les plus proches de vous. Pas les plus loin qui apparaissent en premier, hein, c'est les plus proches de vous. Et on se dit, Seigneur, comment je vais faire ça ? Eh bien, mes amis, c'est une erreur de commencer par, de mettre l'emphase sur le côté, vous devez aimer les autres. Parce que je pense vraiment que l'emphase est mise sur l'amour de soi. Encore une fois, répétons, que s'aimer soi-même dans la pensée de Dieu, ça n'est pas être égocentrique, hein, mais c'est bien d'avoir trouvé son véritable équilibre et de s'accepter au travers du regard d'amour que Dieu porte sur vous. Alors cela fait, une fois ce travail d'analyse, de découverte et de changement entamé, nous sommes rendus capables d'aimer les autres. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, le nouveau commandement donné par Jésus avant son arrestation, sa crucifixion, et sa résurrection, il dit à ses disciples, Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres ?» On est reparti, mais il monte l'échelle. « Comme moi, je vous ai aimé. » Donc c'est l'amour dont a témoigné le Christ qui devient le maître étalon de notre amour à nous. Hein ? On était déjà mal avec le verset d'avant. Alors, « Comme toi, tu es aimé ?» Oui, oui. Ben oui, c'est le niveau. Donc, si vous voulez évaluer la croissance spirituelle de chrétien, ce n'est pas au niveau de ses connaissances bibliques, même s'il en fout les cocos. Hein, bien, la connaissance est super importante. Pour moi, la seule évaluation, c'est comment cette personne aime. Quelle est sa qualité d'amour ? Dieu étant amour, ça n'est pas très étonnant que pour lui, le plus important, ce soit l'amour. Donc, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ça n'est en fait qu'une conséquence de cette transformation radicale intérieure à laquelle nous appelle notre Seigneur. Alors, vous le savez sans doute, ce « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ben, c'est aux disciples, à ses disciples, à ses plus proches, que Jésus dit ça. Et parmi ses disciples, encore lui, hein, décidément, quand je le croiserai dans le royaume de Dieu, il va me dire « qu'est-ce que tu m'as chargé, Yves ?» Il y a Pierre, hein, dans les disciples. Ben, Pierre qui a, pour faire simple, hein, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, Pierre qui a une très haute, mais une très haute opinion de lui-même, hein, et une piètre opinion des autres. Ils vont tous se lâcher parce que ce sont des cloches et des baltringues. Mais moi, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. On l'a vu quelques heures plus tard, hein, cocorico, trois fois, et Pierre se déballonne comme une, j'aurais dit une gonzesse, excusez-moi, mesdames. Ça allait m'échapper. Oh non, je l'ai dit. Oh, pardon. C'est une expression, on ne vous en... Voilà. Je ne trouve pas ça bien que ce quelqu'un ait inventé cette expression. Je ne trouve ça vraiment pas bien. Donc, Pierre, on revient à Pierre, soyons sérieux. En gros, Pierre, si on revient à nos catégories, est un adulte distant. Alors, on ne parle pas de sa famille, on sait que sa belle-mère vit chez lui, ça explique peut-être certaines choses. Mais suite à son reniement, Jésus va lui apprendre que seul un amour retrouvé pour les autres lui permettra de paître le trou de Dieu. C'est entre autres la dynamique de cet triple questionnement de Jésus à la fin de l'évangile de Jean. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?»« Mais oui, Seigneur, amour pour Dieu. Alors tu peux paître mon troupeau, alors tu peux aimer tes frères et sœurs. » Mais ça va commencer par être conscient que, en fait, ton enracinement doit être dans mon amour que moi j'ai pour toi. Tant que tu penseras que ton amour à toi, parce que tu es Pierre, est suffisant pour faire ce que tu vas devoir faire, à savoir aussi à un moment mourir en martyr, ça ne va pas le faire, Pierre. Tu vas continuer à dysfonctionner. Donc, toute cette pédagogie de Jésus vis-à-vis de Pierre, qui est son ami, il aime profondément Pierre, et il veut le voir devenir l'apôtre que Dieu veut le voir devenir. Mais pour ça, il va falloir qu'il passe par cette transformation intérieure. Et ça fait mal. Hein. Quand je lis cette finale de Jean, souvent j'en ai les larmes aux yeux, parce que ça n'a pas l'air d'être drôle du tout pour Pierre. Hein. Il a en face de lui un homme qu'il aime, imparfaitement. Mais c'est quand même l'homme qu'il aime le plus au monde. Il aime peut-être plus que sa femme, que sa belle-mère. Okay. Mais objectivement, il aime Jésus. Mais s'il construit sa vie sur la capacité d'amour personnel qu'il a, alors qu'il dysfonctionne comme tout le monde, ça n'ira pas. Et il va passer sa vie à échouer. Il doit descendre de ses prétentions, si vous préférez. Il est donc sans doute un adulte distant. Et suite à son reniement, donc, il va apprendre que seul un amour retrouvé pour les autres lui permettra de paître le troupeau de Dieu. Ça rejoint un peu ce que je disais la semaine passée. On est avec Dieu comme on est avec les autres. Si vous dites à Dieu, je t'aime, c'est magnifique, hein, il faut lui dire, hein, c'est important. Mais que vous n'avez des relations avec personne, qu'est-ce que c'est bien que cet amour-là, hein? Combien de serviteurs de Dieu, des prêtres, ok, mais des prêtres, des pasteurs, enfin peu importe, hein, vous mettez dans ce vocabulaire serviteur de Dieu ce que vous voulez, mais combien d'entre eux, en tout cas pour ceux dans le protestantisme qui peuvent se marier, combien de serviteurs de Dieu n'ont-ils pas négligé leur famille, parfois même encouragés par d'autres, en se trouvant l'excuse qu'ils servaient et aimaient Dieu, et n'avaient donc pas le temps d'aimer et de servir leur famille. Ne croyez surtout pas que c'est très courant, ça. Vous voyez, les cahiers de charges pastoraux, ce qu'on demande, on attend du pasteur. À la fin, moi je me rappelle de mon cahier de charges à l'époque. Alors, les catégories, j'étais d'accord, mais le nombre d'heures, enfin, à un moment, et alors en plus, petite fille. Et il faut que le pasteur passe beaucoup de temps avec Dieu. J'ai dit, quand, la nuit, vu tout ce que je vais avoir à faire, c'est la nuit que je vais... Enfin, mais quand Dieu passe à la trappe, parce que c'est Dieu en premier qui passe à la trappe dans ce genre de choses, juste dans l'alignement, la deuxième chose qui va passer à la trappe, c'est les plus intimes. C'est ta femme et tes gosses. Hein. J'y suis passé, je sais ce que c'est. Tu n'as pas le temps de passer avec ta femme et tes enfants, t'inquiète pas. Tu sers Dieu, quoi. Ah bon? L'apôtre Jean va lui aussi relier l'amour envers Dieu et envers les autres. Voilà ce qu'il dit dans sa première épître. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Ça ne laisse pas beaucoup de place à l'interprétation, ça. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, qu'il peut toucher, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. CQFD, ça c'est l'objectif. Voilà. Alors Jean Climac, un père de l'Église, dans son livre « L'échelle sainte », au 26e degré de cette échelle, c'est déjà vous arrivez jusque-là, dit quant à lui que l'amour du prochain est plus important que la prière. Et Jean Climac passait sa vie à prier, hein, je précise, c'est un homme de prière. Et voilà ce qu'il dit. Il arrive, lorsque nous sommes en prière, que des frères viennent nous trouver. Nous devons leur choisir ou interrompre notre prière ou attrister notre frère en refusant de lui répondre parce que nous sommes en prière. Mais l'amour est plus grand que la prière. La prière est une vertu parmi d'autres, tandis que l'amour les contient toutes. Et c'est un homme qui a passé sa vie à prier qui dit ça. C'est le même qui, lors d'un temps de prière, a été piqué par un moustique, il a tué le moustique par réflexe sur sa joue. Il a tellement été attristé par le fait d'avoir tué une créature de Dieu qu'il était tout nu dans un marais tout près ou infesté de moustiques. Il y a passé un mois. L'amour de Climac pour les insectes était au-dessus de la moyenne, hein, vous aurez bien compris. Ne faites surtout pas ça. Merci Seigneur Cabrin Lalleux, il n'y a pas de marais. Nous avons le paradis. Alors de nombreux professionnels ont fait remarquer que les enfants, par exemple, parce que tout part comme un peu dans l'enfance, n'ont pas, et ça c'est une bonne nouvelle, hein, n'ont pas de besoin de parents parfaits pour grandir et devenir émotionnellement sains et équilibrés, mais qu'ils ont besoin de parents suffisamment bons, dans le terme bonté, hein, pas bon capable, hein, dans le terme bonté. On va revenir maintenant à cette 4. Style d'attachement, en les reliant aux parents, parce que c'est, encore une fois, en grande partie, c'est là que ça part. Les parents qui veillent à fournir une certaine sécurité à leur rejeton, tout en encourageant l'exploration de son environnement, et qui répondent de manière adéquate à ses cris et à ses demandes de reconnexion, lui permettent de répondre oui aux deux questions cruciales que j'ai mentionnées tout à l'heure. L'enfant, dans ce cas-là, se sent digne d'être aimé et est convaincu que ses parents sont parfaitement capables de lui donner de l'amour, l'affection et l'encouragement dont il a besoin. La vigilance des parents vis-à-vis des besoins de l'enfant envoie à celui-ci le message suivant. Les besoins que j'exprime sont légitimes et mes parents sont heureux d'y répondre. L'enfant va donc comprendre que les figures d'autorité les plus importantes dans sa vie, à savoir son père et sa mère, j'insiste sur les figures d'autorité, hein. Pas distributeur de bonbons, hein, d'autorité. Eh bien, c'est son père et sa mère donc sont dignes de confiance, et puisque ceux-ci ne se sentent pas menacés par l'expression des émotions de l'enfant, l'enfant ne se sent pas non plus menacé par ses propres émotions. Je donne un exemple. Si un enfant éprouve de la tristesse, ça arrive, hein, et que ses parents n'accueillent pas celle-ci, pour le petit garçon classique, peut-être plus aujourd'hui sans doute, mais déjà à mon époque, un homme, ça ne pleure pas. Ça tombe bien, papa, j'ai 5 ans, je ne suis pas encore un homme. Mais ça, c'était courant, hein, à une certaine époque. Allez, t'es un homme, ça ne pleure pas. J'ai quand même un couteau de 20 cm dans la jambe, papa. Ça... Non, un homme, ça ne pleure pas. Pas de tristesse, pas d'émotion, rien à gérer. on est remballé avec l'expression de notre émotion. Et dans ce cas-là, l'enfant va catagoliser, c'est pas du grec pourtant. Hein. En tout cas, il va mettre dans un coin de sa tête que la tristesse est une émotion non acceptable. Et il se sentira dès lors menacé par elle dans sa sécurité affective. Juste, je deviens triste, je ressens de la tristesse. Je vais enfouir cette émotion parce que papa et maman ne vont pas être contents. C'est comme ça que ça marche. Alors j'ai récemment, il y a 2 semaines, j'ai récemment vu un reportage sur les lieux d'accueil pour enfants retirés à leurs parents. Pour abandon, sévices graves, non prise en compte du bien-être de l'enfant, on voit différentes raisons. Et dans ces petits-enfants, c'était jusqu'à 6 ans, je pense, il y avait même des bébés. Et dans ce reportage, il y avait là un bébé de 3 mois qui n'exprimait jamais ses émotions. Alors un bébé, ça ne parle pas. Il a faim, il pleure. Il a mal, il pleure. Il crie. Il a sommeil, il crie, il pleure. Il exprime ce qu'il ressent. Et bien ce bébé-là, 3 mois, il ne pleurait jamais. Quand il avait faim, ou qu'il était mouillé, ou qu'il avait mal, il ne pleurait jamais. Pourquoi ? Parce que ses parents lui avaient transmis le message que toutes les émotions qu'il exprimait au travers de ses pleurs lorsqu'il avait faim, était mouillé ou avait mal, étaient totalement inacceptables. À 3 mois, il avait intégré ça, il ne pleurait jamais. On peut en mourir de ne jamais pleurer, hein, dans ces cas-là. Lorsqu'ils grandissent, les enfants sécurisés se sentent aussi à l'aise avec leurs relations intimes qu'avec leurs propres besoins d'autonomie et d'indépendance. Ils sont relativement équilibrés entre les deux. Autrement dit, sur le plan émotionnel, ils ne sont ni trop en demande de relations, ni trop indépendants. Vous aurez les notes, hein, donc je ne vais pas m'étendre, voilà, parce que ça va peut-être alourdir la donne. En tout cas, ils font preuve, ces enfants ou ces adultes équilibrés, ils font preuve d'intégrité émotionnelle puisqu'ils prennent en compte la réalité de la gamme complète des émotions. Ça veut dire aussi bien positif que négatif dans leur relation. Donc ils acceptent que les autres soient en colère, ils acceptent que les autres soient énervés, stressés, tristes. Ils acceptent, ils accueillent ces émotions de l'autre parce qu'on a accepté les leurs. Donc, ils ne vous rejettent pas parce que vous êtes triste, ils ne vous rejettent pas parce que vous êtes en colère, ils vous accueillent comme vous êtes. Ça veut simplement dire une chose, c'est qu'ils gèrent leurs émotions et qu'ils ne sont pas dominés par elles. Par exemple, en situation de stress, on en connaît tous au travail, entre autres, ils conservent la capacité de penser de manière claire et vont, je l'ai dit tout à l'heure, rechercher des conseils d'amis en qui ils ont confiance et dont ils respectent l'autorité, sans pour autant sombrer dans l'obéissance aveugle ou servile. Ils vont les demander conseil. Résumé, personne sécurisée. Ils n'ont pas peur des émotions, qu'il s'agisse de leur ou de celles des autres. Ils sont prêts à solliciter et accepter le réconfort d'autrui. Ces personnes savent que les relations peuvent être sûres, ce qui leur donne du courage pour s'engager dans l'amour et l'intimité. Ils prennent leurs responsabilités, ils trouvent le courage d'agir lorsque c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, vous aurez bien compris, hein, bien entendu. Ils sont pécheurs comme les autres. Hein. L'attachement anxieux, j'y reviens brièvement. Donc les messages que certains d'entre nous ont intériorisés depuis l'enfance les conduisent à conclure que les réponses aux 2 questions cruciales que j'ai évoqué tout à l'heure, sont « Je ne suis pas digne d'être aimé ». Oui, ceux qui m'entourent se soucient vraiment de moi, puisqu'ils sont meilleurs que moi. Alors, dans de nombreux cas, leurs parents ont été émotionnellement immatures, dépendants et instables. Et si je dois être taquin, je dirais que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants aujourd'hui vont se retrouver dans ce modèle-là, parce qu'ils auront des parents immatures. Et ils ont parfois même inversé les rôles en s'attendant à ce que leur enfant leur fournisse l'amour dont ils avaient désespérément besoin, ces fameux enfants. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez chercher sur Internet hein, les rapports objectifs, les statistiques sur les divorces. L'enfant de parents divorcés, il sert à un truc. Il devient le réceptacle de la souffrance de ses parents. Parce que les parents s'écroulent émotionnellement parce qu'ils sont totalement immatures. Et ils confient leur souffrance profonde à des enfants de 5, 6, 7, 8 ans. Dans quel film on fait ça? On est adulte, on ne l'est pas. Ou tu diras ton père, ou tu diras ta mère, et t'attends. Mais ces parents, forcément, s'ils sont immatures, ils sont aussi passés par des stades qui les ont amenés sur ce chemin-là. Donc ces parents se sont sentis menacés par le besoin inné de leur rejeton à explorer le monde et ont fait en sorte de le garder près d'eux, de plus près possible, et les moyens d'y arriver varient. L'enfant, lui, a intériorisé cet environnement et a appris à valoriser l'intimité au détriment de l'autonomie et de l'indépendance. Sans le sentiment de confiance en soi que développe l'exploration de son environnement, l'enfant développe une perception de lui profondément négative. On ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça. Qui peut se traduire par des croyances ou des convictions à son sujet, du genre « je suis incompétent, je ne peux rien faire par moi-même, j'ai besoin que les autres prennent soin de moi. » C'est pas que tu es bon à rien, tu es mauvais à tout. Ne va pas par là, t'es une catastrophe ambulante, quoi. Alors, je sais bien, quand on dit ça, tous les parents ne sont pas méchants en disant ça. Hein. Ils ont parfois sincèrement peur qu'il arrive quelque chose. Mais la résultante sur le long terme, c'est que le gosse, il n'a aucune confiance en lui. Et après, arrivé un peu dans l'adolescence, on a souvent des problèmes avec ce genre d'enfant. Et les parents ont dit, mais enfin, c'est quand même pas compliqué, tu étudies, tu réussis. Oui, mais on leur a envoyé le message, ils étaient bons à rien. Comment voulez-vous qu'ils réussissent? Puisqu'ils n'ont aucune confiance en eux. Donc tout cela a souvent pour conséquence une peur démesurée de l'abandon. Personne anxieuse, donc quelqu'un qui n'a pas développé une perception exacte d'elle-même et des autres. Elle manque de confiance en elle pour devenir autonome. C'est la raison pour laquelle elle fait trop facilement confiance à des gens peu fiables et recommandables dans l'espoir qu'ils feront quelque chose pour elle, qui vont amener une différence dans leur vie. Mais aucun discernement. On fait souvent rentrer le loup dans la bergerie. Donc l'obsession de la personne anxieuse, vous l'aurez compris, est de savoir si les autres l'aiment et l'acceptent, et elle éprouve un sentiment confus et permanent, la peur d'être rejeté. Cette personne a soif de proximité, puisqu'elle a été construite comme ça, mais est rarement sécurisée dans quelque relation que ce soit. Même lorsque d'autres lui ont prouvé encore et encore qu'il se souciait vraiment d'elle. Le désir d'amour, en fait, de ce type fait qu'elle étouffe les autres par des gestes d'attention et d'affection excessifs, ce qui a finalement pour effet de les éloigner, la laissant ainsi avec un sentiment d'abandon et de confusion. Alors, est-il difficile d'être du type anxieux? Oui. Car une personne de ce type ne se croit pas digne d'être aimée, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que ça? Est-il difficile d'aimer quelqu'un de type anxieux? Oui, car on ne peut jamais l'aimer assez. En résumé, les personnes dont les relations sont caractérisées par l'anxiété ont soif d'intimité, mais vivent dans une peur constante du rejet. Elles sont trop émotionnellement dépendantes et démunies, attendent désespérément que d'autres les amènent à se sentir en sécurité. Elles font confiance trop facilement en ignorant les signes qui indiquent qu'un tel n'est pas digne de confiance. Tout le monde le voit, ces signes-là, autour d'elle, autour de cette personne, mais elle ne voit rien. Elles sont fragiles et vulnérables par rapport à tout ce qu'elles perçoivent comme une critique et qu'elles interprètent comme un rejet sévère. Et elles espèrent que des figures d'autorité se manifesteront et viendront résoudre leurs problèmes. Allez aussi voir les statistiques de personnes étant plus de 25 ans chez les psys, quoi. Vous ne voyez pas qu'il y a un souci? C'est un beau métier quand même. Et elles éprouvent une peur de ne pas s'en sortir toutes seules, si intense qu'elles contrôlent leur existence, cette peur. Alors si je reviens deux secondes au cas de Justin et Rachel, par lesquels j'ai commencé, Rachel avait tous les traits d'une personne anxieuse. Justin se sentait initialement attiré par elle, car il se voyait dans la peau du héros, hein, c'est un sauveur, venant secourir sa belle, mais son indigence émotionnelle a fini par l'étouffer et l'éloigner d'elle. Puis il y a des parents qui encouragent le désir d'exploration de leur enfant. Vas-y, 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 pas de problème. Mais qui, quand ceux-ci deviennent anxieux et pleurent pour obtenir le contact avec leurs parents, ils voient de la faiblesse ou de la manifestation. Pas d'intimité. T'es un grand garçon, hein. T'es une grande fille. Hein. Dans un tel contexte, les petits développent un fort sentiment d'autonomie, c'est vrai, et une certaine méfiance à l'égard de l'autorité. Ils répondent à nos deux fameuses questions comme ceci. Oui, je suis digne d'amour, mais non, les autres ne s'intéressent pas vraiment à moi. Ce qui veut dire pratiquement qu'au fil du temps, ils vont conclure qu'ils ont les aptitudes et compétences nécessaires pour s'en sortir par eux-mêmes. Et ils y sont poussés puisque personne n'est là pour les relever et les réconforter lorsqu'ils échouent ou lorsqu'ils ont peur. Ils doivent faire tout seuls. Ils doivent tout assumer tout seuls. Ces personnes, quand elles deviennent adultes, peuvent résister à l'intimité parce qu'elle leur semble risquée, douloureuse, voire étouffante. La plupart du temps, elles ne voient tout simplement pas la nécessité des relations intimes. Ce n'est pas pour ça que ces gens ne sont pas mariés, ne sont pas en couple, n'ont pas de relations. Hein. Mais il n'y a pas d'intimité. Il y a un vernis, mais il n'y a pas d'intimité. Elles sont isolées, même si elles peuvent être au milieu d'une foule de 50 personnes. Mais à la différence des anxieux, cela ne les dérange pas du tout. Autrement, elles feraient quelque chose pour que ça change. Dans les relations tendues, elles ne se sentent pas particulièrement angoissées parce qu'elles ne croient pas de toute façon qu'elles aient besoin d'autrui pour survivre et s'épanouir. Je n'ai pas besoin des autres, je ne vais pas spécialement être stressé. Comme tous les êtres humains, elles éprouvent bien entendu des émotions, mais elles les ont si longtemps réprimées qu'elles ne sont pas conscientes de l'existence de certaines d'entre elles. Alors ces personnes, c'est symptomatique. Ces personnes ont souvent beaucoup d'énergie, même de l'énergie émotionnelle, mais elles vont les investir dans des domaines où, logiquement, à la base, on ne devrait pas les investir. Le travail, le sport, le ménage, la compétition. Elles sont capables de vive colère en cas d'échec ou lorsque les choses ne vont pas comme elles veulent et des joies intenses en cas de victoire ou de réussite. Alors, s'il y a un conjoint, c'est un exemple, je donne pour vous rendre compte que c'est quand même... Voilà. S'il y a un conjoint, surtout s'il est de type anxieux, le conjoint va se demander où vont leurs émotions. En période de stress, les personnes de ce type deviennent encore plus détachées sur le plan émotionnel, plus enfermées intellectuellement et plus obstinées que jamais à prouver à tout prix quelque chose à elles-mêmes et aux autres. Ce sont des gens qui n'écoutent rien. Et elles expriment rarement, sinon jamais, leurs besoins relationnels. Donc si vous êtes en couple avec une personne de ce type, vous allez devoir passer votre vie à faire toujours le premier pas, si vous voulez une connexion. Elles ne le feront jamais, ces personnes. Alors est-il difficile d'être quelqu'un de distant? Ben, forcément, parce qu'on ne fait confiance à personne et c'est horrible. Est-il difficile d'aimer quelqu'un de distant? Oui, car il ne laisse jamais vraiment entrer personne dans son monde intérieur, même pas son conjoint, si conjoint il y a. En résumé, les messages suivants seront plus légers, hein, je vous rassure. Mais... Oui, parce que je n'ai pas fini, hein, ça vous en doutez. On va peut-être aussi un moment s'attaquer aux résolutions des problèmes parce avec Dieu. Hein, c'est important. De toute façon, il n'y a que lui qui peut nous guérir de tout ça. Et on est tous dedans, hein, donc voilà, soyons libres. Hein. Nous sommes tous esquintés. Non, mais vraiment. Hein. Encore une fois, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de planeur interstellaire. Hein. Même pas moi. Surtout pas moi. N'est-ce pas, ma chérie? En résumé, les personnes de type distant évitent l'intimité, car elles n'en voient tout simplement pas la nécessité, font confiance à leur capacité et sont autonomes, connaissent souvent de faibles niveaux d'anxiété dans leurs relations, même lorsque les autres sont émotionnellement très démunis et quémandeurs, et ces personnes sont exigeantes. Elles sont très critiques et font rarement vraiment confiance aux autres. Elle est la langue de ceux qui expriment des besoins émotionnels profonds, qui sont ouverts, qui vont vers elle, vers ces personnes. Elles vont éviter, elles vont s'éloigner de ces personnes. Elles ont en fait des relations d'affaires avec les autres, même avec les membres de leur famille proche, mais ont des attentes claires de ce qu'à chacun doit faire pour que la relation fonctionne à partir de leur fonctionnement à elles, forcément. Le dernier type, alors, ça c'est enfin, je ne sais pas si c'est le pire, mais enfin celui-là, évidemment, l'attachement créatif, j'aimerais vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, ben, ce n'est pas le cas, il y en a beaucoup trop. Ça vous explique aussi que le royaume de Dieu, il faut vraiment qu'il vienne. Il faut vraiment arrêter tout ça, quoi. Malheureusement, mais même si l'on vient de voir qu'il faudrait que tous les parents aient aient un environnement sécurisé, ça c'est quand même le minimum, certains grandissent dans un contexte où la réponse aux deux questions cruciales posées est un retentissant non. Ces foyers peuvent être physiquement, émotionnellement et parfois même sexuellement abusifs. L'enfant est confronté à des adultes qui, au lieu de lui apporter de l'amour et de la stabilité, lui manifestent une rage incontrôlée assortie d'exigences cruelles ou le contiennent dans un isolement paralysant. J'ai accompagné il y a des années de ça une jeune femme qui m'expliquait que quand elle était petite, déjà quand elle répétait sa leçon, son père l'appelait, « Tu connais ta leçon ? Oui papa, viens me réciter. » Chaque fois que la petite se trompait, le père lui foutait une grande claque dans la figure. Et quand, je ne sais pas moi, ça peut arriver, elle laissait tomber un verre par terre, son père la descendait à la cave avec une icône de Jésus en disant « Tu étais méchante avec Jésus. » Et après, c'était miraculeux qu'elle vienne vers un pasteur quand même pour se faire aider, parce que l'image qu'on lui a envoyée de Jésus, mais c'est la souffrance de Jésus, quoi. Enfin, du moins dit, c'est la gamine qui compte, mais ce genre, vous imaginez, Dieu est amour, vous imaginez l'impact au niveau de l'amour de Dieu, la blessure de l'amour que le Christ doit ressentir quand il voit de tels comportements, en plus, perpétués en son nom. Donc cet enfant, vous l'aurez compris, ne bénéficie ni d'un havre de paix, ni de la joie de l'exploration, ni de l'assurance d'un attachement réconfortant lorsqu'il vit des moments difficiles. Ça. Et dans ce cas, la peur de l'enfant est due au fait que sa source de confort est aussi sa source de douleur et de souffrance. Sans une base solide et sécurisante, il se fige dans la peur. Au niveau émotionnel et relationnel, il a peur tout le temps. La plupart de ces journées se résument en fait à espérer de pouvoir la terminer sans trop d'égratignure. Les individus de type créatif sont excessivement fragiles. Ils construisent une sorte de mur de protection autour d'eux, et ça on peut comprendre pourquoi, et surtout autour de leur cœur, afin d'échapper à de nouvelles blessures. Ils aspirent, comme chacun d'entre nous, à faire confiance à quelqu'un tout en éprouvant d'énormes difficultés à le faire, même envers ceux qui se sont relevés fiable et aimant. En résumé, ces personnes se sentent mal aimées et non désirées, indignes de l'affection de qui que ce soit. Elles aspirent à des relations réelles mais sont terrifiées à l'idée d'être proches de quelqu'un. Elles manquent de confiance dans leur capacité à réussir leur vie. Elles sont fragiles, facilement abattues et vulnérables à toute forme d'offense. Elles pensent qu'elles ont besoin de faire confiance aux personnes en situation d'autorité mais s'en trouvent incapables. Elles restent isolées ou se lancent au contraire de façon inconsidérée dans des relations à la recherche du lien qu'elles ont toujours voulu. Cependant, leur indigence émotionnelle repousse presque toujours les autres. Alors la bonne nouvelle, hein, je ne vais pas vous laisser sortir d'ici sans une bonne nouvelle quand même. La bonne nouvelle, c'est que la volonté d'amour de notre Père, c'est de faire de chacun de nous ses enfants, un homme, une femme sécurisée, de type sécurisé. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est amour et que notre qualité relationnelle et celle de l'Église en dépendent, ainsi que sa relation avec nous, les deux en dépendent. Quoi vous croyez que l'Église ne fait pas plus envie aux gens ? Parce que les gens, quand elles nous regardent, ils disent « mais il est plus esquinté que moi ». Parfois, hein. Une amie m'a encore dit récemment que j'étais vraiment un baltringue, quoi. Donc, j'étais complètement siphonné de l'étage. Sans quoi elle n'a pas tout à fait tort. Les chrétiens sont déjà des extraterrestres, hein, mes amis. Réfléchissons. Dieu est amour. Sécurité. Et il nous envoie le dire au monde entier. Autonomie. C'est le modèle, ce modèle sécurité, c'est le modèle que Jésus a adapté à ses disciples. C'est ce qu'il a employé comme modèle. Il les a sécurisés en les aimant, en les enseignant durant 3 ans. Et il faut être clair, ils étaient lourds, les disciples. Hein. Enfin, j'aurais été disciple, j'aurais été encore plus lourd que les 12 autres réunis, hein, ça j'en suis sûr. Hein. Il les a sécurisés en vivant avec eux, en marchant avec eux, en dormant, en mangeant, en buvant, en riant avec eux. Il les a consolés et il les a repris quand c'était nécessaire. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas digne de Dieu et ça n'est même pas digne de toi. Il ne les a jamais trahis, ni agressés, ni abandonnés. Il ne leur a jamais menti. Quand c'était dur, ce qui allait se passer, il a dit, ça va être dur, mais je serai là. Et lorsqu'il leur annonce son départ, la première chose qu'il leur dit, parce qu'il doit leur dire, je vous envoie un autre consolateur, je ne vais pas vous laisser tout seul. Pour qu'ils ne sombrent pas dans la peur et l'abandon, et qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes que Dieu les a appelés à être. Et en même temps, ça c'est extraordinaire, à intervalles réguliers, et ce malgré toutes leurs faiblesses, Jésus leur a confié des responsabilités. Donc, ça veut dire qu'il leur a permis d'échouer. Parce que quand on confie des responsabilités à quelqu'un, on espère qu'il réussisse, mais il va peut-être échouer totalement, en partie. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. Il faudra le relever et dire, c'est bien coco, continue, c'est le chemin, c'est pas grave, go. Jésus leur a donné des missions accomplies. Alors, il vient de le dire, ils n'ont pas toujours tout fait à la perfection. Ni toujours tout compris. Moi, ça me rassure, en fait. Hein. Mais cela les a préparés à leur grande mission finale, aller dire dans le monde entier que Dieu est amour. Je vous laisse avec cette parole du psaume 27. Mastiquez-la, cette parole. Faisons un chewing-gum spirituel pendant la semaine. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Si mon père et ma mère m'abandonneraient, toi, tu ne m'abandonneras jamais. Alors, le programme de notre vie, c'est nous laisser aimer, nous laisser guérir par ce Dieu-là, par ce Père-là. La suite, à la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.